Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Galaxie. Nous abordons la 16e émission du Geste avec son président Sylvain Martin et son invité, mais on va y revenir. Bonjour Sylvain.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Tout d'abord, tu nous rappelles quel est le geste ?
Mais avec grand plaisir Francis, avec grand plaisir.
Oh, t'es adorable.
Ah, écoute, arrête, je vais tomber amoureux.
Oh non, je suis pris.
T'es pris, ah mince. Le Geste, groupement des entrepreneurs du Sud Toulousain. D'accord, donc le geste qui se décline avec des opérations, le premier geste, le geste à faire. On joue un peu autour de cette marque pour montrer qu'on tend la main en fait au territoire. On tend la main de manière, vous voyez, les auditeurs vont être contents. Je suis passé des jambes habituellement aux mains maintenant, mais il fallait que je me renouvelle un peu. Donc on tend la main au territoire pour l'aider à se développer, faire des actions en faveur de l'emploi, en faveur de la création d'entreprises. Et on tend... l'autre main aux entrepreneurs du territoire pour les fédérer, pour faire en sorte qu'ils se connaissent bien, qu'ils entretiennent de bonnes relations. On en parlait en off juste avant l'émission, des relations effectivement d'affaires, trouver des partenaires financiers, des clients, des fournisseurs, mais aussi des relations informelles parce que c'est dans ce cadre-là où on fait connaissance et puis on a envie de mener des projets ensemble. Donc voilà, tendre la main de deux manières. Aider au développement du territoire, aider à tisser un réseau d'entrepreneurs sur ce même territoire qui, je le rappelle, en gros, même s'il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin, mais toutes les actions du geste sont sur la communauté de communes Cœur de Garonne et celle du Volvestre. Voilà. Et on travaille en partenariat avec les clubs limitrophes. Il y a le SEM à Muret, il y a l'EVA à Haute-Rive et Comminges Entreprise et le réseau d'ici sur la partie plutôt Comminges. Voilà pour... te dire, mon cher Francis, ce qu'est le geste. Mais maintenant, tu connais par cœur.
Complètement, complètement. Et ton invité, par contre ?
Et on reçoit Olivier.
C'est Olivier. Aujourd'hui. Bonjour Olivier.
Olivier. Bonjour Francis. Bonjour
DLT Sysnet.
DLT Sysnet. Salut Olivier. Exactement.
Alors, derrière ce nom, un peu mystérieux, oui. On voit tout de suite l'activité, le net.
Le net, on est d'accord. Alors,
le net, mais dans le sens informatique au sens large, parce que ce n'est pas un opérateur du net uniquement, Olivier.
Bon, c'est pas
mais
très net tout ça.
Il y a, et non, c'est pas très net, et c'est pour ça qu'on le reçoit, c'est qu'il va nous éclairer là-dessus, parce qu'il y a comme beaucoup d'entrepreneurs, et je fais ce petit jeu au départ, mais pour souligner encore, une compétence très particulière avec Olivier, et c'est aussi ça, notre environnement, notre monde rural, c'est qu'on a des pépites. Souvent, ce qu'on cherche loin, ben, on l'a à proximité. Donc là, on a une véritable expertise informatique avec Olivier. Salut Olivier.
Salut Sylvain.
Alors, ALT 6Net, c'est quoi l'activité ?
Alors, l'activité d'ALT 6Net, c'est une activité qui est maintenant très diverse, mais qui est partie au départ de rendre service aux PME et aux TPE, donc aux petites entreprises qui n'avaient pas les moyens forcément de se payer des services informatiques de haut niveau. C'est un vieux projet, en fait, il date de 2006 initialement, et donc à l'époque, la question était d'être capable d'apporter à un commerçant, à un artisan, à une petite boîte de quelques salariés, un niveau de service informatique qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir parce que ça représentait des coûts importants en ingénierie. Et progressivement, ce métier-là a évolué. Les opportunités ont fait qu'aujourd'hui, on est une entreprise qui apporte du service effectivement aux PME, aux TPE, maintenant un petit peu aux collectivités locales. Mais finalement, il s'est avéré que, notamment depuis qu'on est installé en 2010 dans le Comminges, qu'il y avait aussi un besoin pour le grand public. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle travaille vraiment sur deux tableaux qui sont un côté les professionnels et de l'autre côté les particuliers pour, on va dire, dépanner l'ordinateur au quotidien. Et la particularité qu'on a, c'est ce qui nous démarque, on va dire, de ce qu'on a pu connaître dans le Comminges jusqu'à présent. Il y a déjà des sociétés qui ont fait du service, puisque nous, on est implanté à Caser. Ce qui nous démarque très fortement, c'est que nous, on le fait essentiellement à base de logiciels libres autant que possible. Ça a un effet intéressant sur les particuliers, c'est qu'aujourd'hui, ces logiciels libres ont beaucoup évolué. Et donc aujourd'hui, une personne particulière qui a acheté son ordinateur dans une grande surface ou dans de la grande distribution, là, le niveau de service de la grande distribution, comme pour le reste, comme pour la nourriture, comme pour tout. Et nous, on essaye d'amener un peu de, entre guillemets, un peu de bio là-dedans. en essayant de proposer aux gens...
En tout cas du collaboratif.
Du collaboratif et même plus que ça, c'est-à-dire donner aux gens la capacité de comprendre un minimum ce qu'ils font et accessoirement, nous aussi, nous permettre d'être capables de leur expliquer pourquoi, à un moment, quelque chose n'a pas fonctionné sur leur système, essayer d'éviter que ça se reproduise, et pas simplement leur dire « bon ben voilà, votre ordinateur a planté, redémarrez-le, et puis revenez nous voir quand il aura redémarré ». Et donc, nous, dans notre ego d'informaticien, tous les techniciens avec qui je travaille, on est actuellement 5 dans la société, pour tous les techniciens qu'on est, ce qu'on aime bien, c'est apporter des réponses. Et donc, pour nous, dire à une personne « votre ordinateur a planté, réinstallez-le, votre ordinateur a planté, redémarrez-le », c'est pas une réponse. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de défendre cette idée selon laquelle on est des mécanos, on sait ouvrir le capot des machines, on peut montrer aux gens comment ça marche. On a certains de nos clients qui sont devenus très, très autonomes et on en est très fiers. Mmh. Et aujourd'hui, plus de la moitié de nos clients utilisent des logiciels libres et à chaque fois, nous remercient de leur avoir montré ça.
D'accord. Donc ça, c'est pour la partie plutôt particulier.
Oui.
Tu parlais aussi des pros tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se dire, en gros, tu es une sorte de directeur des systèmes d'information externalisés pour les TPE-PME ?
Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors, c'est pas si évident parce qu'aujourd'hui, les PME n'ont pas forcément la notion de ce que c'est qu'un DSI.
Alors, on va l'expliquer.
Mais oui, on essaye au maximum de les conseiller, de les aider dans certains cas aussi à élaborer une stratégie, ce qui n'est pas forcément du tout dans la tête d'un directeur de PME. D'ailleurs, même dans les collectivités, aujourd'hui, on observe ça. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas vraiment de stratégie vraiment définie. Les gens sont un peu dans... On pose un outil quelque part. On n'a pas vraiment ciblé le besoin qu'on avait. On n'a pas vraiment essayé de réfléchir à de quoi on avait besoin. Et donc ça engendre plein de problèmes de dysfonctionnement. Et bon, effectivement, après, les gens ne sont pas satisfaits de leur système informatique parce que finalement, ils n'ont pas vraiment dit ce qu'ils voulaient qu'ils fassent.
C'est ça. Donc du coup, toi, tu vas avoir une approche plutôt par le besoin, c'est ça ?
Pas toujours. C'est-à-dire que la plupart de nos clients aujourd'hui ont toujours une approche par l'outil.
D'accord.
Et donc aujourd'hui, malheureusement, il faut bouffer. Et donc on répond à la question du client. Mais progressivement, le client voyant qu'on est...
On fait de la pédagogie.
Voilà, on fait un peu de pédagogie, on les travaille au corps. Et au bout de quelques mois de travail et de collaboration avec eux, en général, on arrive à commencer à leur inculquer l'idée qu'ils pourraient peut-être prendre la main là-dessus et pas juste laisser les techniciens faire un peu ce qu'ils veulent pour répondre à leurs questions.
Ok. Donc la structure, tu me disais tout à l'heure, la marque déposée depuis 2006 et puis en activité sous cette forme actuelle depuis 2014,
depuis 2014, oui.
D'accord. Comment on en vient à créer cette marque ? Comment on en vient à développer cette activité ?
Alors, c'est purement personnel, ça. J'ai commencé à travailler dans l'informatique, c'est pas très vieux en fait, ça a une petite vingtaine d'années. Et j'ai travaillé beaucoup dans le monde du logiciel libre. J'ai travaillé, à l'époque, j'étais employé du ministère de la Défense, j'étais militaire. J'ai travaillé donc dans les systèmes d'information du ministère de la Défense pendant une bonne dizaine d'années, sur la fin de ma carrière de militaire, après avoir fait de l'aéronautique et diverses autres activités. Et j'ai croisé, en fait, au hasard d'une fête de l'Internet, à la fin des années 90, à l'époque j'habitais en Lorraine, et j'ai croisé un groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Et j'ai découvert que j'avais énormément de choses à apprendre par là, beaucoup plus que ce qu'on m'avait appris dans les études d'informatique. Et donc j'ai acquis une bonne expérience et un bon réseau dans ce milieu-là, dans le milieu des logiciels libres. Ça m'a amené à développer, à participer au développement de certains logiciels libres, d'organiser des rencontres mondiales de logiciels libres qui sont un événement dans le monde du logiciel libre qui sont relativement reconnus. Et donc du coup, je suis devenu vraiment un militant du logiciel libre à part entière, en militant sur l'idée que quand on utilise un système informatique, si on ne connaît pas sa recette de fabrication, on ne peut pas l'utiliser pleinement et surtout on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Il faut bien comprendre une chose, alors c'est pas évident à expliquer pour les novices, mais la personne qui fabrique un programme informatique, en 2018, c'est un législateur. C'est-à-dire c'est la personne qui écrit la loi et qui dit ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire
avec l'ordinateur
informatique. Donc à partir du moment où vous avez affaire à des programmeurs qui ne vous disent pas ce qu'ils embarquent dans le programme informatique, ça veut dire que vous êtes obligé de vous soumettre à ce qu'ils ont décidé que vous pouviez faire avec votre ordinateur. Donc si vous voulez, vous, pouvoir faire ce que vous voulez avec votre ordinateur, la seule solution que vous ayez, c'est de connaître la recette de fabrication. Et un logiciel libre, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire c'est un produit qu'on peut utiliser sans réfléchir comme n'importe quel autre produit, mais on peut ouvrir son capot, savoir comment il marche, modifier son fonctionnement, rajouter des fonctionnalités, revendre même les fonctionnalités qu'on a faites, c'est-à-dire c'est absolument pas incompatible avec une idée de commerce et d'entreprise. Et du coup, je milite pour les logiciels libres depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Et donc, quand j'ai dû moi-même commencer à proposer des services, c'était assez naturel que je me tourne vers ça pour essayer de proposer aux gens quelque chose de différent de ce qu'ils connaissent.
D'accord. Ok. Bel engagement, belle expertise et sans tomber dans le cliché, mais c'est ce qu'inspire un peu Olivier quand on discute et on se croise dans les commissions du GES, c'est qu'il y a un côté très carré. Et ce côté très carré au niveau professionnel, je pense qu'il est, assouvi aussi. C'est quoi les projets d'ALT6Net ?
Alors les projets d'ALT6Net, il y en a plusieurs. Il y a un premier projet, alors on vient de, depuis un an, là on vient de travailler sur un nouveau projet qui s'appelle Occitanet, puisque dans mon milieu associatif, j'ai participé à plein de fournisseurs d'accès Internet associatifs, pareil depuis le début des années 2000, et donc j'ai fait partie de French Data Network, qui était le premier fournisseur d'accès Internet associatif de France, puisque avant qu'existe Wanadoo, c'était le seul de France en 1992. Ah ouais.
C'était la minute culture de l'émission.
C'était la minute culture. À l'époque où j'étais à Nancy, j'ai aidé à lancer Lorraine Data Network, qui est okay. un fournisseur d'accès Internet associatif nancéen. Quand je suis arrivé dans la région en 2010, j'ai participé à la fondation et je continue à être adhérent de l'association Theta Neutral sur Toulouse, dont vous avez peut-être déjà entendu parler
non,
dans le coin.
Moi, pas du tout.
Qui s'est scindé en deux associations distinctes, puisqu'ils ont connecté énormément de monde sur Saint-Gaudens, qui s'appelle maintenant Commun Jeu Débit. Et donc, ces deux associations-là fournissent de l'Internet, mais au niveau associatif. Et donc, sur Caser, moi, j'ai développé une partie de ce réseau en tant que bénévole. Et il s'est avéré qu'au bout d'un moment, on a eu des gens qui nous ont demandé de leur fournir de l'accès Internet, mais on va dire de façon plus professionnelle. C'était des entreprises, c'était des gens qui étaient dans des zones qui n'étaient pas bien couvertes ou pas avec un niveau satisfaisant de service. Et là, on s'est rendu compte qu'une association, c'était un peu problématique. Mmh. Alimenter des professionnels avec des bénévoles qui ne sont pas toujours disponibles, qui vont partir au ski le week-end, et puis quand ça tombe, le gars, faut attendre qu'il rentre du ski. C'était un peu gênant. Et donc, du coup, là, on s'est dit... Nous, on a peut-être un coup à jouer là-dessus, on a peut-être quelque chose à faire, c'est-à-dire arriver à proposer du service là-dessus. Donc depuis bientôt 3 ans, on a restructuré tout ce réseau. L'association continue à bénéficier de ce réseau. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de bricoler votre connexion Internet, allez voir Theta Neutral, vous pouvez vous bricoler votre connexion Internet vous-même et vous vous appuyerez sur notre réseau. Et nous avons déployé un réseau actuellement d'un peu plus de 130 antennes, donc qui sont... issus de partenariats, la plupart du temps privés, avec des syndics de copropriété, des établissements qui ont des bâtiments suffisamment élevés, des châteaux d'eau, des points hauts qu'on a dégotés un peu partout. Bon, évidemment, ces partenaires-là, ils sont intéressés. Ça leur permet eux aussi de bénéficier d'une connexion Internet à des débits supérieurs à ce qu'ils pourraient avoir traditionnellement. Et donc ce projet-là, petit à petit, s'appelle maintenant Occitanet. On voulait l'appeler Alternet au départ.
Alternet.
Mais il y avait un gars qui avait...
Alternative.
On était toujours dans l'idée d'Alternative. Okay. Il y a un gars qui avait réservé le nom de domaine, qui nous a gentiment proposé de lui acheter pour $50,000. Donc on a dit, on va trouver un autre nom. Et donc c'est devenu Occitanet, okay. en référence à notre attachement à la région et à notre côté. Notre vocation, elle est vraiment de faire du régional, de faire du local. Et donc on s'appelle aujourd'hui Occitanet.
Alors la question béotienne de base que je me pose, c'est quand on entend parler du développement de la fibre avec un objectif de couvrir tout le territoire. Mm-hmm. Est-ce que c'est une activité qui est pérenne par rapport à ce développement de la fibre?
C'est une activité où on a prévu d'être sur de la fibre, peut-être même avant
D'accord.
les autres.
Peut-être même avant les autres.
La grande question aujourd'hui de la fibre, il suffit de regarder les promesses qu'on nous fait depuis à peu près une dizaine d'années sur la fibre. Mm-hmm. Moi, ça fait 15 ans qu'elle arrive dans 6 mois.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc là, les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est la fibre arrive à la fin de l'année. Okay. J'attends de voir. Le problème, c'est que la fibre arrive. Une fibre, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut qu'il y ait des gens qui creusent des trous, qui passent des fibres à l'intérieur. Ça représente des investissements assez colossaux. À côté de ça, une fibre, à un moment, il y a quelqu'un qui va mettre de la lumière dedans. Ça s'appelle un opérateur. Moi, à chaque fois que j'ai affaire à un politique qui me dit la fibre arrive, très bien, pas de problème. Qui l'opère ? Ah, je sais pas.
D'accord.
Mais c'est quoi? Elle est fantôme, votre fibre, elle sort d'où? Donc pour l'instant, moi, je vais faire comme Saint Thomas. Tant que je la vois pas, j'y crois pas. Okay. La seule fibre qu'il y a aujourd'hui sur Caser, pour l'instant, c'est moi qui l'ai tirée pour moi. C'est pas ailleurs. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, en tout cas, la fibre, moi, je l'entends arriver depuis 10 ans que je suis sur Caser. On me dit, la fibre arrive, okay. Regarde, ils ont tiré des trucs.
Mais ça permet d'éclaircir. Du coup, tu peux être cet opérateur.
Bien sûr.
Ça fait partie allume la fibre.
Ça fait partie des projets qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment gros pour que ça valide un modèle économique. Mm-hmm. Mais le projet qu'on a, nous, sur Caser, aujourd'hui, d'alimenter de la connexion Internet donc dans des zones écartées. C'est-à-dire nos antennes restent des antennes qui vont permettre d'amener. On n'amènera pas la fibre en haut de mon bureau et on n'amènera pas la fibre chez Madame Michu à Aurignac. La fibre, elle va peut-être arriver à Caser ou à Carbonne. Michu. Voilà, Madame Michu, mais tout le monde la connaît. Mais cette fibre-là, elle ne va pas arriver partout. Elle ne va arriver que dans des points stratégiques. Et de ces points stratégiques, il faudra bien déployer le réseau aux endroits où les gens habitent, aux endroits où les entreprises sont. Aujourd'hui, la plupart des développements qui ont été faits par le département, sans vouloir dénigrer quoi que ce soit, ça a été fait et ça a été développé au profit des zones habitées. Mmh. Okay. Il suffit d'aller voir ce qui se passe sur les zones artisanales, Carbonne, Caser, Martre, et voir les débits qu'on obtient aujourd'hui avec encore de la DSL et à quel prix, pour se rendre compte qu'aujourd'hui, ben, la fibre ne va pas vraiment concerner, j'imagine non plus, ces entreprises-là. Aujourd'hui, les entreprises qui investissent dans la fibre, elles investissent là où il y a du monde, et très clairement, les zones dans lesquelles il y a des entreprises, ce n'est pas, c'est pas une priorité pour eux, surtout que les entreprises sont prêtes à payer très cher pour en avoir une.
Ok. Donc, projet de devenir opérateur, et notamment en tirant de la fibre comme...
Ben, on est déjà opérateur par nos antennes. On a déjà des petits bouts de fibre à droite, à gauche qui nous permettent de relier notre bidule. Okay. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas une fibre encore qui amène du trafic. Aujourd'hui, on est encore sur de l'agrégation de liens, sur des choses comme ça.
Ok. D'autres projets ?
D'autres projets, pour l'instant, celui-là est déjà très gros. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. On aurait des projets, mais c'est pareil, c'est des projets pour l'instant qui sont vraiment à l'état d'embryon, on va dire. Il y a des projets d'essayer de développer en fait la notion de télétravail sur le territoire. Je suis assez attaché, pour la petite histoire, je suis pas né dans le coin, mais j'y viens depuis que je suis tout petit en couche-culotte. Mes grands-parents sont enterrés ici, même s'ils n'étaient pas originaires du coin, et donc le Comminges est une région qui a été adoptée par toute ma famille de façon assez collégiale depuis très longtemps. Et quand je suis venu m'installer en 2010 ici, indépendamment de ce que je pouvais y faire, c'était surtout une volonté d'y retrouver, on va dire, les racines les plus ancrées que j'ai aujourd'hui, même si je ne suis pas né là, elles sont ici. Et donc j'ai dans l'idée d'essayer d'aider ce territoire qui subit une lourde influence de la métropole voisine. Et j'ai dans l'idée d'essayer d'aider ce territoire à se moderniser, dans moi les compétences que je peux apporter dans le monde du numérique, dans le monde des réseaux, d'essayer de permettre à ce qu'enfin on arrive à trouver du travail, y compris des travails très hautement techniques, sur ce territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on arrive et qu'on regarde la population casérienne, je suis impliqué dans des projets, notamment d'économie sociale et solidaire, dans lesquels je vois qu'aujourd'hui, par exemple, sur 5000 habitants à Caser, il y a plus de 1000 personnes qui vivent avec les minima sociaux. Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas dans l'idée que je me fais de comment on pourrait développer ce territoire. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, et on reviendra aux raisons qui m'ont poussé à aller voir le geste, mais en tant qu'entrepreneur, on a un rôle qui n'est pas un rôle politique, mais qui est un rôle d'acteur local qui peut aider à faire ça. Donc j'ai des projets de développement du territoire, et dans ces projets-là, il y a des projets que je suis en train de monter en coopérant avec des petites sociétés avec qui je travaille aussi sur Toulouse, de faire par exemple, d'essayer de monter par exemple des coding goûtés.
Coding goûté.
Coding goûté, c'est un concept.
On goûte, on a un fondant au chocolat, voilà, et on code en même temps.
C'est s'adresser à des enfants entre 9 et 15 ans, et de commencer à les initier à la programmation. Comme je le disais tout à l'heure, la programmation, aujourd'hui, c'est la législation. Si ces gens-là, on est capable de leur faire comprendre ça, on va évoluer et on ne va plus avoir peur de nos machines. D'accord. Il faut que les gens n'aient pas peur de leur ordinateur. Okay. Et donc pour ça, il faut qu'ils sachent un petit peu, qu'ils sachent bricoler un petit peu dessus. Et donc il y a des projets là-dessus. On a essayé de le faire, mais aujourd'hui, par manque de temps, on n'y arrive pas. C'est essayer de faire des après-midi autour du numérique. On a déjà fait quelques exemples. On en a fait 2-3. C'est pas énorme en 4 ans, mais on en a fait 2-3. On a essayé d'expliquer aux gens ce que c'est qu'un email. Qui peut regarder ce qu'on passe dans un email, parler un peu de confidentialité des informations, parler de vie privée, parler de toutes ces choses-là pour essayer d'éduquer un peu les gens à ce qu'est le numérique, parce que même si ça leur paraît lointain, aujourd'hui c'est leur vie de tous les jours, y compris juste parce qu'ils ont besoin de déclarer leurs impôts sur Internet. Et donc il y a tout un...
Y compris Madame Michu à Aurignac.
Surtout Madame Michu, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est que Madame Michu, aujourd'hui, on lui a tellement expliqué qu'elle n'avait pas les qualifications, qu'elle ne pouvait pas comprendre, que finalement elle a complètement et définitivement admis qu'elle ne pouvait pas comprendre, qu'elle devait faire appel à des experts. Et nous, justement, on voudrait essayer d'inverser cette tendance-là pour dire aux gens, au même titre que vous avez appris à conduire votre voiture et à ne pas la jeter sur un platane à chaque fois parce que vous avez passé un permis de conduire et donc vous avez une certaine expérience là-dedans, ben avec votre ordinateur, vous devriez pouvoir avoir une expérience un peu similaire pour ne pas vous faire avoir par le premier mail de phishing venu ou par le premier gars qui vous dit qu'il est coincé au fin fond de l'Afrique, qu'on ne peut pas le joindre, qu'il ne peut communiquer par mail et qu'il a besoin de 4000 euros.
Mmh. Okay. Militant, hein, engagé, hein. L'ami Olivier. Alors, tu as fait la transition un peu tout seul tout à l'heure, mais et on comprend bien les valeurs que tu véhicules. Du coup, le geste, comment t'en es arrivé à connaître le geste? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu y adhérer?
Ça a été un peu le fruit du hasard, en fait.
Ça veut dire que le geste, on communique mal. Mais je note l'info.
Ça a été le fruit du hasard parce que j'ai rencontré ton prédécesseur, président du geste, Dominique Valentin, à l'occasion d'une soirée pub en vol, où je suis allé participer, où je suis allé assister à une soirée pub en vol où on parlait de télétravail, puisque Dominique est pleinement là-dedans. Et à l'époque, moi j'étais télétravailleur, j'avais pas encore complètement lâché le salariat, et j'étais télétravailleur depuis un an ou deux sur Caser, et donc ça m'avait intéressé d'aller voir un petit peu quelles étaient les conclusions d'un gars qui parlait de télétravail, parce que moi j'avais seulement ma propre expérience. Et donc, j'ai croisé pour la première fois Dominique Valentin comme ça, et qui m'a dit, mais oui, mais j'ai un truc, etc. Enfin, il nous a expliqué, il faisait la promotion du geste dans ses conférences, et donc je suis allé à la réunion plénière suivante. Et depuis, autant que possible, dès que c'est possible, j'essaye de participer aux activités du geste, de plus ou moins loin en fonction de mes disponibilités. Mais j'ai trouvé le club un peu différent par justement son côté convivial, pas seulement affairiste. Mmh. Et donc c'est un peu ce qui m'a poussé à dire, ils font ce qu'ils peuvent. On a, comme toutes les associations, des choses faciles, des choses moins faciles, mais on fait ce qu'on peut et on le fait dans une ambiance où on essaye un peu de se serrer les coudes. On est tous plus ou moins des petits entrepreneurs là-dedans et on sent aussi cette influence de la métropole toulousaine et donc on a un peu envie d'essayer de... Donc ça correspondait assez bien finalement à ce que moi j'essaye de faire à mon niveau, mais finalement au niveau des entreprises.
Ok. Ça me permet d'ailleurs de rebondir et de lancer un appel, c'est que plus on est nombreux dans une association comme le GES, plus c'est facile.
Bien sûr, bien sûr.
Donc tout le monde est accueilli au GES, artisans, commerçants, informaticiens, professions libérales, consultants, entreprises grandes, petites. Voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment une vitrine économique du territoire et plus on sera nombreux, mieux ça sera.
Bien sûr.
On va donner les coordonnées pour conclure. Alors, donc, on te trouve à Caser physiquement.
Oui, à Caser physiquement.
L'adresse.
Alors, on peut nous rencontrer facilement en place de l'Hôtel de Ville. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la place où il y a la halle et l'église à Caser. Hein, on ne peut pas se gourer.
Et la mairie.
Et la mairie et la médiathèque. voilà, en fait, c'est le point central de Caser. C'est downtown Caser. Donc, on est ouvert au public. On a des ouvertures au public qui ont été un peu révisées parce que les professionnels nous consomment beaucoup de temps et donc le public aussi. Et donc, il a fallu qu'on sépare un peu les choses. Donc, on est ouvert au public l'après-midi, tous les après-midi.
D'accord.
Du lundi au vendredi de 14 à 18. On est évidemment joignable, alors je peux peut-être donner le numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre, c'est le 09 72 54 05 47.
Alors on va le refaire plus lentement.
09 72 54 05 47. Okay. Donc vous tomberez sur notre charmante standardiste qui vous accueillera et vous aiguillera. Et un mail, il y a une boîte très simple, c'est contact@alt6net.com. Alors alt6net.com, ça veut dire Alternative System Network, et donc ça s'écrit ALTSYSNET.com.
Tout simplement.
Voilà.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir accueilli.
Nous voir. Longue vie à ALT6Net.
On va y travailler.
Plein de beaux projets encore. Et puis on a des belles choses à vivre aussi. Au niveau du geste. Merci Olivier, merci Francis.
Merci Sylvain, merci Francis.
Merci.